Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, dans Chrétien d'Orient ce matin, je suis en compagnie de Christiane Tortel. Bonjour Christiane.
Bonjour Sébastien.
Alors nous sommes sur un sujet qui est passionnant, un livre extraordinaire, la question du pan. Le pan dans les religions de l'Asie à la Méditerranée, sacralisé, diabolisé, vous allez nous dire. Et la référence est un livre, une somme, qui vient de paraître chez Goetner à la fin du printemps 2019. Un livre qui est monumental, qui est une référence, un peu plus de 500 pages, avec de très très belles illustrations. Un livre, je crois, qui est déjà présent dans de nombreuses bibliothèques. Alors, cette idée de pan, comment vous est-elle venue, Christiane ?
Cette idée de pan m'est venue d'abord d'une note que j'avais faite sur les Yézidis, puisque dans une publication qui est parue chez Actes Sud sur la Kalandal, c'est-à-dire ces derviches errants de type transgresseur, je me suis intéressée de très près aux migrations indiennes, puisque les Indiens étaient très présents au Moyen-Orient. Évidemment, leur influence a été minimisée pour des raisons qu'on peut deviner. Et donc, ces Yézidis ont un dieu Pan. Et à cette occasion, j'avais écrit une petite note et je m'étais interrogé pourquoi un dieu Pan. Et si vous voulez, je peux vous parler maintenant des Yézidis, hein, puisque la porte est ouverte sur eux. Eh bien, du point de vue ethnique, les Yézidis ne sont pas du tout un groupe homogène. Et parmi ces Yézidis, se sont agglutinés des émigrés, enfin des déportés du Grand Sindh, c'est-à-dire du Sindh actuel et du Gujarat,
qui avait été... Donc le nord de l'Inde?
Non, le sud plutôt.
Ah, Karachi, le sud de l'Inde, voilà.
Est de Karachi, en fait, toute cette région-là. Et ces gens-là avaient été déportés en 712 sous les Omeyyades. Et ils avaient été installés à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. Et ces gens-là qui sont les ancêtres un peu des tziganes, j'emploie un terme qui est tardif, mais je vais le dire. Donc j'ai beaucoup étudié cette question dans ce livre qui est paru chez Actes Sud. Et donc ces gens se sont mêlés aussi aux Mandéens dont on parlera tout à l'heure, puisqu'on va retrouver dans la littérature yézidi la présence de ce pan. Et donc, il y a des aborigènes du centre et de l'ouest de l'Inde qui ont un dieu Pan. Donc il semble très clair que ces Jats, ces Indiens qui étaient des hors-castes, hein, qui sont venus du sud-ouest de l'Inde, hein, le Pakistan n'existe pas à cette époque-là, ont apporté avec eux leur divinité. Et évidemment, comme ce sont des hors-castes, ce sont des gens qui ont une littérature qui doit être plus que sommaire. Et quand ils se sont agrégés aux Yézidis, puisqu'ils ont été redéportés par les Omeyyades à cause des nuisances, des troubles qu'ils avaient provoqués dans le delta du Tigre, ils ont été, de l'Euphrate, ils ont été redéportés en Syrie du Nord. Et en Syrie du Nord, ils se sont agrégés au groupe qui existait déjà au Kurdistan. Enfin, on a des tas de sources qui montrent le lien qui existe entre ces gens-là, hein, ces Indiens qui viennent, je dirais, de l'Inde, puis qui se sont installés en Irak, et qui ensuite ont émigré de force au Kurdistan.
Alors, Christiane Tortel, vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences religieuses, vous êtes spécialisée dans la littérature mystique persane, donc on vous sent très à l'aise dans ces zones. Vous êtes passionné d'archéologie, passionné d'histoire. La question que je me pose, c'est cet animal, le pan. Donc on le retrouve après dans la symbolique chrétienne aussi,
Bien sûr.
Ça dont nous parlerons. Pourquoi le pan a tellement suscité la curiosité et la défiance aussi?
Eh bien, parce que son histoire est extrêmement complexe. Hein. Son histoire, c'est l'histoire d'une apothéose et d'une chute. Une chute absolument verticale. Et cette chute va être provoquée au Moyen-Âge, à partir du XIe, XIIe siècle, chez les clercs, à partir, disons, de l'importation, on peut dire, d'un texte qui est très important, qui s'appelle le Physiologus. Enfin, je peux en parler plus longuement. Et c'est dans ce Physiologus qui va être moralisé. Ce Physiologus est une encyclopédie des animaux, des plantes et des pierres précieuses, qui a été dépouillé de ses notices sur les plantes et les pierres précieuses pour se consacrer essentiellement aux animaux. Et la notice originelle, si vous voulez, ne comporte rien de mauvais sur le pan, alors que la notice moralisée, qui va être traduite par Ponce de Léon au XVIe siècle, en latin, est-ce que c'est lui qui donne ses traductions ou il copie une traduction, il publie le texte grec? Bon, évidemment, cette traduction est complètement fausse, puisque lui, il va dire que la qualité principale du pan est là, Yaktabunda, la superbiable, ça, comme vous voulez, l'orgueil.
L'orgueil.
Donc, voilà. Donc ce physiologus va faire apparaître le pan comme un monstre, je dirais, qui est bouffi d'orgueil. Alors la seule question qu'on va se poser, c'est très complexe parce que on a des problèmes de datation énormes, c'est que ce physiologus qui est passé par l'Espagne, évidemment, l'Espagne islamisée, qui a été traduit probablement à Cordoue, à Séville, dans toutes ces régions-là, eh bien, ce physiologus contient un nombre de notices qui est extrêmement variable, qui va de 12 notices à 80 dans les traductions en arabe. Donc la question se pose quand cette notice a été introduite dans le corpus du physiologus. Bon, là, on aurait un indice, si le physiologus est très ancien, si cette notice est très ancienne, on est au 3e siècle à Alexandrie, mais moi, mes recherches m'ont permis de dater cette notice. Donc, comment je vais dater cette notice? Je vais vous l'expliquer après. Je vais simplement essayer de placer un petit peu tous les textes, les très rares textes qui permettraient d'expliquer la diabolisation du pan. Puisque le pan n'a jamais été diabolisé. Je dis rapidement son histoire. Et son histoire est une histoire merveilleuse, hein, depuis l'époque ptolémaïque, dans les cultes à mystère, les cultes dionysiaques, qui sont très mal connus, puisqu'il n'y a pas de littérature. Ce sont des sectes, je dis des guillemets, qui n'écrivent pas. J'ai réuni un ensemble absolument extraordinaire d'intailles. Et sur ces intailles, on va découvrir quelle est la fonction du pan dans ces cultes dionysiaques.
Avant de parler, pardon, du pan dans ces cultes dionysiaques, justement, qui tiennent une place très importante dans votre développement, pardon, et dans votre ouvrage, décrivez-nous un petit peu l'animal.
Ah, alors, évidemment, l'animal, on va bien parler, le talent, les caractéristiques que la nature lui a données, se prêtait immédiatement à une interprétation symbolique. Pourquoi? Parce que, bon, je ne vais pas dire sa queue qui s'épand d'est en ouest, etc., et qui est constellée d'ocelles, c'est-à-dire il voit d'est en ouest.
C'est ses petits yeux, oui, voilà, qui apparaissent sur sa queue.
Ses yeux qui apparaissent à l'extrémité de ses plumes. Donc, le paon, grâce à sa queue, peut voir tout ce qui se passe dans le monde, et il fait la jonction entre les ciel et la terre, bien sûr. D'autre part, il est couronné, bien sûr, avec sa petite aigrette. Il annonce la pluie par ses cris. Il danse lors de la parade nuptiale ou lorsque les Indiens savent claquer des doigts comme ça, ils les font merveilleusement. Et surtout, il tue les serpents. Et il n'est pas atteint par le venin des serpents. Donc évidemment, cet animal-là va se prêter à une interprétation symbolique extraordinaire, hein, puisque ce symbole va symboliser la lutte des passions, bien entendu, sur tous les poisons extraordinaires, etc., etc. Donc ce paon a été symbolisé, mais sa symbolisation maximale, on ne va pas la trouver chez les Indiens. On dit le paon est indien, mais bon, oui, d'accord, mais le paon est aussi chinois. Donc on a des représentations du paon en tant que passeur vers l'éternité. À partir des royaumes combattants, on est au 4e siècle, on passe à l'époque Han, au 2e siècle, où on voit des représentations du paon sur les pierres tombales, etc., etc. Donc, ce paon, je dirais, qui est pas divinisé, mais qui a un rôle eschatologique, il existe déjà en Chine. Ensuite, le bouddhisme, rapidement, hein, qui s'installe à partir du 1er siècle en Asie centrale, etc., sur la route de la soie, eh bien, ce paon va devenir un avatar du Bouddha. Dans les Jataka, la question c'est que les Jataka sont difficiles à dater, on dit moins deuxième, plus deuxième siècle, et on a une description du paon qui est extraordinaire, et ensuite on va avoir, dans ces Jataka, il est dit que ce sont les Indiens qui emportent eux-mêmes leur paon en Babylonie, Assyrie, etc. Et donc, ensuite, lorsqu'Alexandre, évidemment, conquiert toutes ces régions.
Alexandre le Grand.
Oui, Alexandre le Grand.
Qui porte avec lui l'hellénisme.
Oui, il conquiert évidemment toutes ces régions jusqu'à Taxila. En fait, il ne dépasse pas les limites qui avaient été atteintes par les Perses achéménides, à partir de Cyrus, hein, toutes ces
donc
régions.
Donc là, nous sommes dans quelle région à peu près? C'est le nord du Pakistan actuel?
C'est le nord-est, oui. Donc, et l'art du Gandhara, n'est-ce pas, hein, qui est difficile à dater puisque ce sont les provinces grecques, hein, qui se sont installées dans ces zones-là jusqu'au 3e siècle à
peu près. Donc ce sont des Bouddhas qui sont représentés avec des traits occidentaux, c'est extraordinaire.
Oui, si vous voulez. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur toutes les stèles que l'on a conservées du Gandhara, on a toujours le paon qui couronne la grotte dans laquelle le Bouddha est installé. Ensuite, on aura à Kryzyl, donc dans toutes les peintures des temples en ruine, des représentations très fréquentes du paon. Et donc, on a dit que ce paon... Alors là, je prends rapidement, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce débat.
On va arriver à la période chrétienne, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette référence à Dionysos.
Oui.
Voilà. Donc cette référence dionysiaque.
Voilà. Alors donc cette référence dionysiaque est très intéressante parce que quand on connaît l'histoire d'un certain Dionysos, évidemment, il y a plusieurs Dionysos. Je parlerai de Dionysos Zagreus, lequel Dionysos, évidemment, a été massacré par les Titans. Pourquoi a-t-il été massacré par les Titans? Parce qu'il est le fils de Zeus et Héra, qui était jalouse de Zeus, qui produisait beaucoup plus d'enfants que de miracles. Eh bien, Héra va demander à Héphaïstos de forger un miroir. Et ce miroir avec d'autres jouets sera présenté à Dionysos. Et lorsque Dionysos va regarder dans ce miroir, il va se voir, il va se contempler dans, je dirais, en tant que créateur de la pluralité. Donc les Titans se jettent sur lui à ce moment-là et ils le coupent en morceaux, en 7 morceaux. Ils vont d'abord le faire bouillir, ensuite ils vont le faire griller, puisqu'il faut détruire, je dirais, les 2 principes qui sont en Dionysos. Le principe humide, puisque Dionysos est le fils d'une mortelle, et le principe divin, si vous voulez, puisque Dionysos est le fils de Zeus, hein, le dieu de la foudre, je le dis bien. Donc ce Dionysos-là, il va renaître, donc résurrection, etc., etc., etc. Et on va avoir, disons, à partir de l'époque ptolémaïque, on va avoir une hyperdulie, de, si je peux employer le terme, de Dionysos. Et donc, dans les cultes qu'on appelle orphico-dionysiaques, avec le relais de Pythagore, Platon, etc., la chaîne dorée de ce relais-là. Et donc, sur ces entailles, on va voir le Pan qui est représenté, soit avec tous les symboles éleusiniens, c'est-à-dire le pavot, le blé, mais ce qui est, ou le tirse, évidemment, le tirse qui est le symbole de Dionysos, c'est la pique à pomme de pin.
Donc le pan va représenter Dionysos, voilà. En fait.
Il va représenter Dionysos.
Jusqu'à quelle époque?
Très tard, hein, très très tard, puisqu'on a à Pompéi, on a des pans partout, et surtout, là, il y a une peinture absolument extraordinaire à Torre Annunziata, qui est juste à côté de Pompéi, qui représente, alors là, cette scène absolument extraordinaire que personne n'a interprétée jusqu'à maintenant, qui représente 2 pans de part et d'autre, d'un trépied, qui n'est pas le trépied de Delphes, puisque je vais démontrer évidemment que le trépied de Delphes n'a pas du tout cette typologie, donc la représentation qui est là, c'est, je dirais, c'est le mythe de Dionysos, et vous avez des miroirs de part et d'autre qui font allusion à la vie future, vous avez, enfin, je ne vais pas vous décrire cette fresque dans toutes ses dimensions, mais là, ce pan dionysiaque, on va le retrouver dans toute l'époque romaine. On est au début de l'époque impériale, là. C'est-à-dire, tout Pompéi et tous ces sites-là, Herculanum, etc., ont été détruits par le Vésuve en 79.
Nous sommes avec Christiane Tortel ce matin pour évoquer la figure du pan dans les religions de l'Asie à la Méditerranée autour d'un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Göttner. Alors Christiane, nous allons maintenant passer à la période chrétienne. Donc nous avons vu l'association qui a été faite entre Dionysos et le pan. Et je crois qu'on retrouve cette représentation du pont d'abord dans des catacombes à Rome au milieu du 4e siècle où le pan est en gloire et peut-être l'annonciateur d'une parousie, la parousie du Sauveur. Et ensuite, à Ravenne, à l'église de San Vitale, décrivez-nous un petit peu.
Alors, oui, évidemment, on a les catacombes de Rome, de Naples, etc., où on voit voir le pan qui est représenté, évidemment, selon le modèle dionysiaque, c'est-à-dire affronté de part et d'autre d'une corbeille de fruits. On va le voir, disons, au centre d'une représentation qui montre l'âme du défunt, représentée sous la forme d'une colombe, qui est dirigée par des petits chérubins, des amoréniens, appelez-les comme vous voulez, qu'on trouve à Pompéi. Ce sont des images classiques qui sont héritées directement dans les catacombes. Évidemment, on a dit que ces catacombes était chrétienne, mais il n'y a rien de chrétien dans ces catacombes. On va voir le pan qui est debout sur la sphère, on va le voir debout sur des candélabres, on va le voir associé à des siennes.
Donc c'est un élément décoratif peut-être ?
Non, pas décoratif, absolument pas. C'est, je dirais, il est dans des tombes, les tombes, c'est là où Dionysos intervient pour transférer l'âme du défunt dans son paradis, qui est un paradis couvert de fleurs, puisqu'on verra dans toutes les catacombes, le fond de la représentation toujours couvert de roses, puisque Dionysos n'est pas seulement couronné de lierre, mais il est couronné de roses. Et la rose, comme vous le savez, c'est une fleur extraordinaire, hein, qui meurt très vite. Donc on va le retrouver dans toutes ces représentations chrétiennes, parce que les modèles ont couvert les sols à l'époque romaine, que ce soit de la Libye jusqu'à la Pannonie, jusque partout, ce pan est toujours représenté. Donc il passe directement chez les Byzantins, Et Byzance, évidemment, accueille ce modèle, mais il faut une sanction ecclésiale, si vous voulez, hein, puisque les cultes Dionysos sont hyper actifs, hein, jusqu'à l'époque de Julien, etc., qui lui fait toujours...
Donc au IVe siècle,
oui,
à peu près.
Fait toujours l'apologie de Dionysos, etc. Donc, saint Augustin va donner son verdict, il le raconte une histoire qu'on lui avait présentée un peu à Carthage.
Attendez, il faut qu'on s'arrête un petit peu sur saint Augustin, parce qu'il... Donc, rappelons la période de saint Augustin, 354 à 430, je crois, donc milieu du 5e siècle. Il est originaire d'une petite ville qui est en Tunisie, je crois, aujourd'hui. Et il voyage au cours de sa formation à Rome, où effectivement, il visite des monuments. Et je crois qu'il va se prononcer sur le pan. Il va avoir quelque chose à dire. Et c'est un exemple que vous donnez. Il y avait deux pans en bronze placés aux angles du fronton de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Oui.
Alors évidemment, il s'agit de la basilique qui précède...
qui a été achevée par Constantin.
Voilà, celle d'aujourd'hui, donc la basilique de l'époque constantinienne.
Il n'existe plus rien.
Alors dites-nous un petit peu sur Saint-Augustin. Pourquoi s'est-il prononcé sur le pan ?
Il s'est prononcé parce que Constantin... je dirais, se réapproprie le pan sur le sarcophage de sa fille Constance, qui est un sarcophage absolument magnifique qui se trouve au Vatican. On va avoir des pans qui sont représentés, je dirais, dans une scène de vendange, une chose classique, thème dionysiaque. On l'a aussi sur la tombe de Junius Bassus, qui a été baptisé sur son lit de mort. Et ensuite, donc, saint Augustin doit se réapproprier ce modèle. C'est évident, il est tellement fort, il est tellement puissant qu'on est obligé de, je dirais, de les légitimer. Et donc, il dit qu'il a mangé un pain à Carthage et qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois, enfin une durée infinie, la chair du pan n'était toujours pas atteinte par les stigmates de la putréfaction.
Donc ça, c'est saint Augustin qui le dit.
Voilà. Donc, eh bien, je dirais, on valorise la valeur du pan en le désignant comme symbole d'immortalité et de résurrection, hein, puisque le pan change de plume, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il quitte ses vieilles plumes en automne et il en remet des nouvelles au printemps. Donc ça, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on va avoir des pans qui vont se répandre dans tout le monde qui est chrétien.
Donc, on va le voir dans les églises, on va le voir sur les mosaïques, dans certaines fresques. Et on arrive jusqu'au Moyen-Âge, on est obligé un petit peu d'avancer. Pour revenir un petit peu à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est qu'ensuite, le pan devient la voix du diable.
Et il devient le diable lui-même. Donc on a tout ça, toute cette apparition de, je dirais, cette terminologie qui est absolument dévalorisante, où il a le pas du voleur, il a une voix terrible qui fait peur, où la voix du diable crescendo, on va voir, disons, tous ces attributs qui apparaissent, et il est incestueux, il est sodomite, etc., etc. Donc moi je me pose la question, pourquoi avoir diabolisé le pan de cette manière ? Il y a une raison, on est à quelle époque ? Eh bien, bon, déjà, Hildegarde de Bingen, qui n'a certainement pas, Hildegarde de Bingen, c'est 9e-10e, qui n'a pas, ou 10e-11e plutôt, et qui n'a certainement pas lu le fameux Physiologus dont je vous ai parlé, puisqu'elle dit que le pan, je dirais, n'a pas la voix de qui est mi-animal, mi-oiseau, puisqu'il s'accouple avec les animaux, lui, le pan chez Hildegarde de Bingen, et il lève sa queue lorsque le vent souffle dessus, et de là lui vient sa joie. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va avoir dans tous les bestiaires.
Je voudrais vous citer un texte que j'ai trouvé dans votre livre, donc c'est pour illustrer cette rupture de continuité avec l'Orient. C'est quelqu'un qui s'appelle Conrad de Mur, je crois, au milieu du XIIIe siècle. Le pan ressemble au dragon ancien, c'est-à-dire à Satan. Il en a la voix qui terrifie. C'est quand même très très fort, ça.
Oui.
Donc on est en rupture complète avec la réhabilitation de saint Augustin, bien entendu.
Mais ça se passe après l'époque carolingienne, hein, après Charlemagne. Charlemagne, lui, quand on regarde tous les manuscrits, entre autres, qui sont conservés à la BNF, on va avoir le pan qui flanque, je dirais, l'étape de concordance de chaque côté d'une archivolte, etc., etc. Bon, le pan n'est pas du tout diabolisé à l'époque de Charlemagne. Donc, c'est juste après. Et lorsqu'on regarde sur le plan historique, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'époque des croisades. Et lorsqu'on regarde la littérature, disons, apologétique, anti-islamique, hein, d'époque byzantine, et post-byzantine, on va avoir des descriptions du prophète Mohammed qui correspondent exactement aux attributs du pan. Donc le pan a été islamisé, si vous voulez, pour démolir un peu plus Mohammed. Donc là, c'est la violence symbolique dont parle Bourdieu, dans un certain sens, qui va vraiment, je dirais, solder l'histoire du pan dans l'horreur. Donc l'histoire du pan à partir des Bessières, parce qu'il y a d'autres textes qui interviennent. Il y a Saint Jérôme, bien entendu, dont je dois parler quand même, puisque Saint Jérôme est un père de l'Église.
Disons-le,
que,
bien sûr.
Oui, parce que les pères n'ont pas du tout diabolisé le pan. Les pères de l'Église, absolument pas. On va tous les textes, disons, qui sont contemporains dans la littérature grecque ou latine, etc. Des pères de l'Église et les pères de l'Église n'ont jamais diabolisé le pan, sauf Saint Jérôme. Saint Jérôme, enfin, si l'on peut dire, il l'a pas vraiment diabolisé. Mais
à quelle époque, à peu près?
Saint Jérôme, on est au 4e, 5e. Donc Saint Jérôme a fait une traduction de la Bible hébraïque, puisque jusqu'alors, je dirais, toute la chrétienté utilisait beaucoup la Septante, qui est la traduction grecque qui a été faite sous Ptolémée Philadelphe.
De la Bible.
Oui, la traduction de la Bible. Et il y a aussi la Vetus Latina qui a été faite à partir de la Bible. Il y a les exaplates.
Et sur le pont, alors, que dit-il précisément?
Donc, il fait, en Jérémie 12, 9, hein, ou qui est en grec, je dirais, un texte qui est absolument incompréhensible, puisque ce texte dit, est-ce que ma mon héritage, enfin, cléronomia en grec, est comparable à l'antre d'une hyène, la caverne d'une hyène, une caverne tout autour. Bon, donc je fais une analyse évidemment très précise de ce verset, essayant de lui donner une signification, bien entendu, au cours de l'histoire, hein, puisque, je dirais, les Juifs n'ont pas été en odeur de sainteté dans toute leur histoire, comme chacun le sait, et surtout à l'époque du christianisme, où on a Jean Chrysostome et tous ces gens-là qui vont détruire définitivement l'image des Juifs. Donc, Saint Jérôme lui donne une traduction en latin qui est parfaitement cohérente et il va identifier la caverne d'une hyène parce que c'est Haït Tsebua en hébreu qui est un apax, donc comment traduire ça Haït Tsebua? Tsebua veut dire coloré, Haït c'est peut-être un oiseau. Donc on a toujours interprété cet oiseau comme un... Enfin il y a des traductions, vous verrez mon livre, qui sont très fantaisistes. Et donc lui, Saint Jérôme va donner une traduction absolument claire. Il dit que le pan... Enfin, c'est l'héritage de Dieu est un oiseau de toutes les couleurs. Donc cet oiseau de toutes les couleurs, c'est le pan, et il en fait le commentaire dans son commentaire du livre de Jérémie, où il le désigne comme le pan. Voilà. Donc, il dit évidemment que Jérusalem, péché par orgueil dans un certain sens, il ne le dit pas littéralement, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Donc, on peut dire, si vous voulez, que la première petite touche de diabolisation du pan a été donnée par Saint Jérôme. Ensuite, il y a les textes de Physiognomonie, il y a d'autres textes qui viennent s'ajouter à ça et qui vont être, puisqu'on a des manuscrits du XIIe siècle, utilisés par les clercs.
Christiane Tortel, merci beaucoup pour être venue jusqu'à nous en ce dimanche matin. Je rappelle le titre de votre livre, Le Pan dans les religions de l'Asie à la Méditerranée, qui vient d'être publié aux éditions Göttner. Je remercie Dany Journeau, Claire Poinsignon et Alain Joubert pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.